Vous êtes sur RTL.
12h30.
RTL Midi.
Le 12h30.
Bénédicte Tassard.
Bonjour à tous. Bienvenue dans RTL Midi. Léon, balleuse française au top. Une 30e médaille assurée après une qualification en finale au JO. 29 à 27 face à la Suède. Un risque financier pour le Barça. Le club catalan s'explique après le départ de Lionel Messi après 20 ans de vie commune. 200€ de prime pour les salariés de la coopérative bretonne Coperle. C'est le bonus pour récompenser leur vaccination. L'extension du pass sanitaire au journal officiel. Sortez vos smartphones à partir de lundi. Mais il y aura une semaine de rodage, précise ce midi le gouvernement. Invité de RTL Midi, Didier Chenet, le directeur du Groupement National des Indépendants. Avec lui, nous examinerons la mise en place de ce pass. La nuit des étoiles, ce soir, on s'installe dans un transat pour admirer le ciel, mais attention à la pollution lumineuse. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Alors cet après-midi, autant en rire Valérie.
Oui, j'ai plus que ça en fait là maintenant. Alors on va avoir un ciel encore très chargé avec des averses qui vont circuler sur la moitié nord et tout au long de la façade atlantique en glissant jusqu'aux Pyrénées. Alors pour l'instant, le soleil, on le trouve près de la Méditerranée, mais aussi dans le Massif central, en Rhône-Alpes, en Franche-Comté. Alors dans les départements les plus au nord, ça va finir par se tasser. Les nuages vont gagner le Jura, vont gagner également l'Auvergne ou encore le Lyonnais et les Alpes. Ça restera donc ensoleillé près de la Méditerranée. Quant aux températures, comment dire, 21 degrés seulement à Rennes et à Lille cet après-midi, 23 à Paris, à Besançon, à Dijon, 25 à Agen, 28 à Toulon et 30 quand même au soleil à Nîmes.
Merci Valérie, à tout à l'heure pour le journal. La question du jour, football. Croyez-vous à l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain? Vous dites oui à 17% seulement, non 56%. On attend vos appels au 3210. Vos chroniques du jour, les chemins de Saint-Jacques, nous ferons un stop dans le Gers, dans le village de La Romieux. Et puis les petits secrets de Nicolas et Luca Karabatic, deux des stars du handball français. Révélation par leur maman Lala dans la table à langer. Restez avec nous, vous êtes bien sur RTL.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Après les garçons, les filles. Demi-finale de basket Japon-France, ce sera à 13h. Et puis le hand, Isabelle Langer, bonjour.
Bonjour Bénédicte, bonjour à tous.
Les Bleus affrontent les Suédoises ce matin et c'est gagné. Elles sont qualifiées pour la finale.
Oui, une victoire 29-27 pour les filles d'Olivier Crumble. C'est surtout une deuxième finale consécutive au JO. Elles se sont arrachées pour gagner leur billet. Les Suédoises les ont accrochées. Il a fallu attendre la 23e minute pour que les Bleus prennent enfin les commandes. Avec un but d'avance à la pause, elles sont revenues sur le terrain, le mort aux dents, et peuvent aussi remercier leur gardienne, Cléopâtre Darleux, qui, à l'instar de Amandine Leno, en quart de finale, a été un vrai mur aujourd'hui. Écoutez-la, elle est au micro de nos confrères de France Télévisions.
Franchement, on est trop contentes. On forme vraiment un bon duo et on a besoin de bonnes gardiennes pour gagner les matchs. Donc voilà, aujourd'hui en tout cas, on a pris moins de buts qu'elles. C'est ça le handball. Faut juste prendre moins de buts que l'autre équipe. Donc super contente d'aller en finale, mais on a envie de la gagner. Mmh.
Et vous savez, Bénédicte, dans cette équipe, il y a de nombreuses mamans. C'est le cas notamment de Cléopâtre Darleux. Écoutez-la.
Oui, Olympe, elle regarde. Et j'ai trop envie, franchement, qu'elle ait la médaille d'or autour du cou à la maison depuis le 10 juin. On est parti, donc je fais un gros bisou à ma fille. Je te fais de gros bisous, tu me manques. Et voilà, on ramènera la médaille.
Ah ouais, une médaille qu'elle va ramener. C'était de l'argent aux Jeux de Rio. Et je peux vous dire que les Françaises comptent bien cette fois repartir avec l'or autour du cou. Elles affronteront la Norvège ou la Russie dimanche à 8h pour vous en France.
Merci, nous aussi, on y compte bien. Merci beaucoup Isabelle Langer, envoyée spéciale à Tokyo pour RTL. Au stade olympique, on a souffert avec Johan Diniz, qui a abandonné à mi-course pour le dernier 50 km marche de sa carrière. J'aurais dû m'arrêter avant, regrette le Français de 43 ans, champion du monde 2017.
C'était certainement la compétition, certainement de trop. Enfin, ça fait 2 ans que je cours entre les opérations, les blessures, se remettre à chaque coup de ça. Il y en a peut-être eu un peu trop. J'étais pas prêt à me faire aussi mal que j'avais pu me faire mal à Rio. Quoi. Je l'ai fait une fois et je crois que j'avais tellement amené mon corps aussi loin dans la douleur qu'il n'arrive plus à aller la surpasser. Quoi. Donc, j'étais plus à la plénitude de ce que je pouvais espérer et malheureusement, il m'a fallu cette course pour m'en rendre compte et c'est un peu triste. Quoi. Voilà, fallait que ça se termine. Quoi. Malheureusement, ça ne se finit pas bien. Mais voilà, c'est fini.
C'est fini pour Johan Diniz. En cyclisme sur piste, l'unique chance française en vitesse individuelle, elle est dans la force des mollets de Mathilde Gros, qualifiée pour les huitièmes de finale. Ce sera demain. On refait les jeux 18h30 ce soir avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. Mais si vous voulez rester ce matin, le FC Barcelone s'explique après l'officialisation du départ de Lionel Messi. L'Argentin est resté 21 ans dans le club catalan, mais il est trop cher, Diane Cambon.
Tristesse, mais aussi reconnaissance envers l'astre du ballon rond, Léo Messi. C'est le message que vient de transmettre Joan Laporta, le président du club FC Barcelone. La délicate situation financière du club est la raison pour laquelle le Barça se sépare de l'attaquant argentin après 20 ans de vie commune.
Léo mérite tous les éloges. C'est une personne qui a tout donné pour son club. Sa volonté était de rester au Barça et à Barcelone. Et si vous me permettez une réflexion personnelle, je suis triste, mais je suis convaincu que c'est la meilleure chose que nous ayons faite pour sauver les intérêts du club.
Pour continuer de payer le mirobolant salaire de Léo Messi, plus de 100 millions d'euros par an, Joan Laporta a expliqué que le club devait hypothéquer 50 ans de droits de retransmission télévisuelle. Une solution économiquement impossible. Reste à savoir quelle sera la destination de Léo Messi et le club qui pourra s'offrir la plus grande star des attaquants.
Et tous les regards se tournent bien sûr vers le PSG, seul candidat crédible pour l'instant. Merci beaucoup Diane Cambon, notre correspondante en Espagne pour RTL. Messi et son avenir, on peut en parler ensemble au 32-10 après 13h. C'est reparti pour la Ligue 1, première journée avec à 21h, Monaco qui affronte Nantes. RTL Foot 20h, 23h avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi. Une pause, dans un instant, une prime pour inciter à la vaccination. Ça se passe même en France.
RTL Midi, Bénédicte Tassard.
Incité à la vaccination, la coopérative Coperle, qui produit les jambons brocéliants, des madranges, distribue une prime de 200 euros à ses salariés vaccinés contre le Covid. La mesure a été annoncée en début de semaine aux 7400 employés, principalement bretons. Les salariés sont partagés. Stéphanie fait partie de l'effectif à Lamballe dans les Côtes d'Armor. Elle est plutôt pour.
On a déjà eu les papiers, on a juste à présenter notre feuille comme quoi on est bien vacciné des deux doses et ils nous la mettent automatiquement.
C'est plutôt rassurant.
Oui, c'est très rassurant. Au moins, ils savent les gens qui sont vaccinés, les gens qui ne sont pas vaccinés, c'est tout. Mais c'est un choix de chacun. Mon choix, c'était que je voulais être vaccinée. J'attendais pas mal de gens qui étaient vaccinés pour voir comment le vaccin réagissait. Et moi, je suis vaccinée et mon mari et mes enfants sont vaccinés aussi.
Que vous allez faire avec ces 200 euros?
Profiter un peu pour faire des sorties qu'on ne pouvait pas faire autrement à cause du Covid.
Stéphanie avec Nicolas Bobby. Pierre Herbulot, faisons le point ensemble. L'attribution de cette prime est strictement encadrée.
Oui, elle prend la forme de la fameuse prime Macron. Vous savez, cette prime créée pendant la crise des Gilets jaunes, exonérée d'impôts et de cotisations sociales. Alors, pour en bénéficier, les salariés des abattoirs Coperle doivent toucher moins de 3 SMIC par mois. Ça, c'est le critère légal. Et donc, être vacciné, ça, c'est pour la condition imposée par l'entreprise. Et c'est ce qui pose question, puisqu'en versant la prime, la direction saura si les salariés sont vaccinés ou non. Je rappelle que les salariés de ces abattoirs ne sont pas au contact du public et donc qu'ils ne sont pas concernés par le pass sanitaire pour travailler à partir du 30 août. La direction du groupe, qui n'a pas souhaité réagir au micro, rejette tout flicage et explique vouloir participer activement à la démarche nationale de prévention sanitaire en incitant à la vaccination. Si c'est une première en France, la pratique est de plus en plus courante aux États-Unis. Les primes y vont de 25 à 1000 dollars sur présentation d'un justificatif vaccinal.
Pierre Herbulot du service économie de RTL. Ça n'a pas traîné. La loi sur l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants a été publiée ce matin au journal officiel. C'est moins de 24 heures après sa validation par le Conseil constitutionnel. Dès lundi, donc, pass sanitaire de rigueur dans les cafés, les restaurants, les trains, les autocars pour les longs trajets, les centres commerciaux, les hôpitaux et les maisons de retraite. Mais le gouvernement rassure, il y aura bien une semaine de rodage. C'est ce qu'annonce son porte-parole Gabriel Attal.
Il y a une semaine de rodage dans la mise en place du pass sanitaire. Mais de la même manière que lorsqu'il s'est mis en place, je crois que c'était le 21 juillet, pour un certain nombre d'activités de loisirs ou de culture, il y a eu une semaine de rodage, une semaine de mise en place, où évidemment les contrôles ne vont pas servir à sanctionner, mais d'abord à accompagner, à faire de la pédagogie. C'est un outil nouveau pour énormément de professionnels, il faut qu'ils puissent se l'approprier. Ça a évidemment un impact que nous ne minorons pas dans leur organisation au quotidien, notamment quand on est restaurateur, qu'on a une grande terrasse. Évidemment que c'est une contrainte supplémentaire. Mais je veux vraiment insister sur le fait que c'est cette contrainte qui nous permet de garantir à ces lieux qu'ils peuvent rester ouverts dans un contexte où l'épidémie circule beaucoup.
Gabriel Attal. Et au bout d'une semaine, Thomas Pourteau, à partir du lundi 16 août, quelles sont les sanctions prévues ?
Alors, commençons par le contournement le plus prévisible du pass sanitaire, la présentation d'un faux QR code ou du QR code d'un ami. Si vous êtes pris, c'est 135 euros d'amende, ce qui est relativement léger. Si vous êtes pris trois fois dans les 30 jours, en revanche, là, c'est tribunal, 6 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Idem si vous êtes contrôlé sans aucun pass sanitaire, pour le coup, dans un établissement recevant du public. Côté patron d'établissement, si les QR codes ne sont pas vérifiés, pas d'amende, mais une fermeture administrative. D'abord 24 heures, puis 7 jours si rien n'est mis en place. Ce n'est qu'en cas de double récidive dans les 45 jours que le couperet tombera. Un an de prison et 9000 euros d'amende. Toute la question, c'est l'effectivité des contrôles à venir, puisque ni les patrons de bars ou de restaurants, ni les cinémas, ni les centres commerciaux ne sont habilités à demander votre identité. Seules les forces de l'ordre pourront constater la fraude. Tout dépendra donc de la rigueur des instructions données aux policiers et aux gendarmes après le 15 août, donc, comme vient de l'annoncer le porte-parole du gouvernement.
Thomas Proutot, responsable du service police-justice. Vous écoutez bien RTL, il est midi et 42 minutes. Vous avez peut-être entendu ce matin sur notre antenne le président des Patriotes s'insurger contre ce pass sanitaire. Ce midi, la rédaction de RTL a décidé de vérifier les propos de Florian Philippot. Avec vous, Odile Pouget, bonjour.
Bonjour.
On commence par cet antiparasitaire qu'est l'ivermectine.
Oui, traitement que l'on connaît bien hein, depuis 40 ans, utilisé notamment contre la gale et qui aurait des effets bénéfiques contre le Covid, considéré même comme un remède miracle par ses défenseurs.
Florian Philippot.
La preuve, selon oui. Florian Philippot, zéro cas en Slovaquie et en République tchèque, qui l'autorise depuis cet hiver. Chiffre faux, tout d'abord, ces deux petits pays de 5 et 10 millions d'habitants ont aujourd'hui entre 50 et 220 cas par jour et l'épidémie est en train de remonter. Quant à l'efficacité de cette molécule, eh bien, elle n'est absolument pas démontrée par les études scientifiques. Aucun effet sur la mortalité, sur la durée d'hospitalisation, sur la transmission de la maladie. Aucun effet sur une réduction de la charge virale dans l'organisme. C'est vrai que l'Institut Pasteur a livré récemment des résultats montrant une atténuation de certains symptômes, tels que la perte d'odorat, mais il s'agit d'une expérimentation sur des hamsters. On est assez loin de l'homme. Autre élément apporté au dossier, le Pérou, par exemple, confronté à plusieurs vagues épidémiques qui avaient autorisé l'ivermectine en mai 2020 pour des formes modérées, vient de le retirer de la liste des médicaments recommandés.
Alors, Florian Philippot affirme aussi que parmi les 14 morts décédés du Covid à La Réunion la semaine dernière, 13 étaient vaccinés. Qu'en est-il, Odile ?
Vérification faite là aussi. Sur les 13 décès recensés la semaine dernière, la très grosse majorité concernait des patients qui n'avaient pas un schéma vaccinal complet. 4 patients âgés de 76 à 89 ans avaient en revanche reçu leurs 2 doses, mais présentaient de très fortes comorbidités.
Vérification signée Odile Pouget du service santé de RTL. Invité de RTL Midi, Didier Chenet, le président du groupement national des indépendants. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va s'arrêter avec vous, si vous le voulez bien, sur la mise en pratique de ce pass sanitaire dans les hôtels, les restaurants. Le QR code sera scanné avant que le client ne s'attable. Comment allez-vous faire ?
C'est toute la question et l'inquiétude, évidemment, de nos professionnels. D'abord, du comportement du client récalcitrant qui se verrait refuser l'entrée du restaurant. Deuxièmement, l'inquiétude quant à l'impact que ça va pouvoir avoir sur notre activité et notamment le chiffre d'affaires. Mmh. À entendre les professionnels du cinéma qui disent qu'ils ont des pertes très sensibles d'activité, est-ce que pour nous ça va être la même chose ? Donc c'est la question que nous nous posons. Et puis enfin, la grosse difficulté pour nous, ça va être le contrôle sur les terrasses.
D'accord.
Là, c'est mission impossible.
Alors, c'est-à-dire, vous ne pensez pas que le contrôle du pass peut devenir une simple formalité ?
Écoutez, non, ça va être compliqué encore une fois. Les terrasses, ce sont des espaces ouverts. Les clients viennent, je dirais, et avant même de rentrer dans le restaurant, puisque c'est une terrasse ouverte par définition. Donc ils s'installent, ils prennent une table. Et qu'est-ce qu'on fait? On contrôle et on dit aux clients qui n'ont pas le contrôle, le pass sanitaire valide, on leur dit bah, veuillez partir. Ça va être très très compliqué.
Ça va être très compliqué. Vous attendez
Oui. Oui. Pardon.
Vous êtes en contact donc tous les jours avec ces professionnels. Certains refusent encore d'être des gendarmes, comme ils disent.
Non, nous allons appliquer la loi. Il n'y a aucun problème. Ça, là-dessus, nous le ferons. Maintenant, je pose une question toute bête. Est-ce que les gendarmes seront tenus de présenter leur passe sanitaire aussi pour rentrer dans l'établissement?
Et pour les hôtels, comment ça va se passer? Passe sanitaire dès la réservation de la chambre?
Alors, non, dans les hôtels, il n'y a pas, si vous êtes uniquement un résident à l'hôtel et que vous ne fréquentez pas ni le restaurant, ni éventuellement le spa ou la piscine de l'hôtel, vous n'avez pas de contrôle de passe sanitaire. C'est uniquement dans des lieux qui sont des lieux, encore une fois, où vous avez une concentration d'un certain nombre de clients et que ce sont des lieux ouverts comme peut être le restaurant ou la piscine.
D'accord. Merci beaucoup Didier Chenet d'avoir été l'invité de RTL Midi. Merci beaucoup. Vous bouclez les valises pour partir en vacances ou pour rentrer chez vous. Sachez qu'il y aura du monde sur la route demain, samedi, classé rouge dans le sens des départs, noir même en Auvergne-Rhône-Alpes, orange pour les retours, rouge autour de la Méditerranée. En Île-de-France, Bison Futé recommande de traverser la région avant 14h aujourd'hui. Cela ne vous laisse plus beaucoup de temps, soyez prudents quand même. Ce matin, 8 adolescents ont été blessés sur l'A75 dans le Cantal, près de Saint-Flour. Un minibus les transportait en colonie de vacances quand il a percuté un poids lourd. Un des jeunes est en état d'urgence absolue à l'hôpital de Clermont-Ferrand. À l'étranger, 16 personnes hospitalisées en Grèce suite aux incendies violents aux portes d'Athènes, dans le Péloponnèse, sur l'île d'Eubée. 90 départs de feu en 24 heures. Dans la capitale, l'air est irrespirable ce midi. L'aide internationale s'organise. 2 bombardiers à eau sont arrivés de Suède, 3 hélicoptères de Suisse et la France, elle, a envoyé 83 pompiers avec 2 canadaires et 8 tonnes de matériel. Le lieutenant-colonel Nicolas Faure, des pompiers des Bouches-du-Rhône, nous explique leur mission.
Depuis ce matin, nous effectuons des reconnaissances sur le village d'Aphides, à proximité d'Athènes, sur un feu qui est assez gigantesque et qui menace de nombreuses habitations. Dans le même temps, nous déchargeons tout notre matériel qui a été acheminé par fret aérien hier. Du matériel léger, essentiellement, pour aller chercher le feu sur de grandes distances, faire des établissements de tuyaux sur du relief escarpé, de manière à être à pied d'œuvre et à pouvoir nous coordonner de manière efficace avec les pompiers grecs qui sont sur place et qui sont déjà harassés par ce combat. C'est un feu qui menace plusieurs zones habitées. Là, les températures remontent et le vent va se lever et la situation va devenir de nouveau très difficile compte tenu de la superficie et des enjeux humains et matériels à défendre.
Le lieutenant-colonel Nicolas Faure avec Gauthier Delombugard pour RTL. Il est vexé, Elon Musk, le patron de Tesla, n'a pas été invité la nuit dernière à la Maison-Blanche. Et pourtant, le président des États-Unis avait convié 3 autres constructeurs automobiles. Objectif, des voitures plus vertes d'ici 2030. Lubna Naki, Biden vient de dévoiler d'énormes ambitions. Pour Joe Biden, il s'agit de revenir dans la course mondiale aux voitures électriques et de rattraper le retard face à l'Europe et surtout face à la Chine. Le président américain veut investir dans les véhicules propres et que toutes les pièces soient fabriquées sur le sol américain. La clé de ces voitures est la batterie, a déclaré Joe Biden, précisant qu'aujourd'hui, 90% des batteries sont fabriquées en Chine. Joe Biden a signé donc un décret pour que la moitié des voitures neuves vendues dans le pays d'ici 2030 soient sans émission. Et il a le soutien des patrons des grands groupes américains et du puissant syndicat automobile présent hier à ses côtés. Pour réaliser cet objectif, Joe Biden a promis des prêts, des aides financières pour booster l'industrie automobile. Grâce à cette stratégie, le président souhaite arriver à son objectif de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis sur les 9 années à venir. Lubna Anaki, correspondante de RTL aux États-Unis. Retour chez nous, 3 nuits pour en prendre plein les yeux et profiter des milliers d'étoiles filantes, les perséides qui vont illuminer le ciel. C'est la 30e édition de la Nuit des Étoiles ce week-end. 350 manifestations gratuites organisées partout en France. Mais pour observer Vénus, Jupiter, Saturne, il va falloir d'abord éviter les nuages, bien sûr, mais surtout la pollution lumineuse. Pas évident, Sophie Jousselin, avec les satellites.
Oui, vous avez certainement entendu parler de ces constellations de satellites comme Starlink par exemple, des grappes de satellites de télécommunications qui sont envoyés à chaque lancement par dizaines dans le ciel, avec un but certes très louable, fournir de l'internet à haut débit dans les contrées les plus reculées de la planète. Mais le problème, c'est que ces satellites et leurs panneaux solaires réfléchissent la lumière du soleil, forment des guirlandes lumineuses et font des traînées dans le ciel, ce qui empêche de bien voir les étoiles, les planètes et la Voie lactée. Il n'existe pas de législation pour l'instant obligeant les constructeurs à faire des satellites plus discrets et mieux protégés contre les reflets lumineux. C'est pourtant ce que demandent les astronomes qui s'inquiètent de ce qui pourrait advenir du ciel étoilé dans les années à venir, puisqu'il est prévu de faire tourner plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de ces satellites juste au-dessus de nos têtes.
Sophie Jousselin, notre chanceuse spécialiste des étoiles sur RTL.
Les chemins de Saint-Jacques sur RTL.
À midi et 51 minutes, on enfile les chaussures de rando. 4e étape sur le chemin de Saint-Jacques. Nous sommes en Occitanie, dans le village de Laromieux, 500 habitants. Des rosiers grimpant sur les façades et la monumentale collégiale vous attendent après que vous ayez dévalé les routes qui courent au flanc des vallons de la Lomagne. Gersoise, amoureux des belles pierres, tendez l'oreille.
Eh bien, les pèlerins arrivent ici par le chemin du Puy-en-Velay, le célèbre GR65 au nord, bien sûr, ou par celui de Rocamadour, au sud. Nous sommes donc à un carrefour des chemins de Saint-Jacques. Ce village est un joyau de pierres blondes et de fleurs.
On a laissé des petits emplacements au pied de chaque maison où les propriétaires s'engagent à mettre des fleurs.
Thierry Combournac est le maire de Laromieux.
Nous avons la chance que le tronçon Lectoure-Condon sur lequel nous sommes et la collégiale elle-même sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous sommes, j'allais dire, doublement référencés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça amène le monde entier. Vous pouvez voir passer ici des gens venus d'Asie, des gens venus des États-Unis, des gens venus de toute l'Europe pour vous donner un ordre de grandeur. En 2019, nous avons compté entre 3 et 4 000 nuitées entre le mois d'avril et le mois d'octobre.
Et certains s'y installent, comme Annie, franco-américaine. Elle vit la moitié de l'année dans ce village.
Ce qui est merveilleux. les commerçants, la beauté du site.
Qu'est-ce qui fait le charme de ce village, selon vous?
Bon, on n'est pas beaucoup déjà, on est 500 et on se connaît tous, donc c'est sympa.
Hervé Charles, lui aussi, est venu de loin, de Suisse, pour restaurer une très belle maison et y ouvrir des chambres d'hôtes.
Il faudrait revenir le soir quand le soleil se couche et que les pierres deviennent dorées. Celui-ci, la pierre, le soir, prend une couleur, c'est magique. C'est doré, on ne s'en lasse pas.
Cette collégiale, c'est d'abord un repère pour les marcheurs. On les voit de très loin, ces deux tours qui culminent à 33 mètres. Notre guide est Thierry Perret.
Je suis natif d'ici, j'ai fait toute mon enfance ici, je fais la visite de cette collégiale depuis plus de 26 ans maintenant. Et donc j'ai été baptisé dans cette collégiale, j'ai fait ma communion, enfin je fais partie des murs quoi.
Enfin non, vous faites parler les murs.
Aussi. Donc on va accéder bien au cloître. D'accord. Allons-y, je vous laisse passer devant. Ce cloître et cet ensemble collégial qui est quand même gigantesque puisqu'il représente à l'origine avec son palais un quart du village. Donc c'est vraiment quelque chose de monumental. Mais revenons d'abord à l'origine de ce village. Ce village sera fondé vers l'an 1060 par deux moines pèlerins qui, eux, par contre, revenaient du pèlerinage de Rome. Les pèlerins de Rome, on les appelait les Romus. Les Romus en occitan, dont le village s'appellera La Romu, la ville des pèlerins de Rome. Francisé, ça deviendra La Romu.
Cette collégiale a été bâtie au XIVe siècle par le cardinal Arnaud d'Ox.
Il sera notamment le cousin du premier pape d'Avignon, Clément V, originaire de la Gironde. Et il sera cardinal, évêque. Et il s'assurera même, pendant 2 ans après la mort de son cousin, le pape Clément V, la gestion de l'église. Et au cours de cette grande carrière politique et religieuse, il décidera de construire ici, dans son village natal, son caveau ainsi que celui de sa famille. Et ce caveau, c'est cette gigantesque collégiale.
Il y a le charme du cloître, la curiosité du plus ancien escalier à double révolution d'Europe, les peintures extraordinaires de la sacristie et les tours qu'il faut grimper.
Ah ouais, ça se mérite, hein.
Alors, en reprenant mon souffle, Nous voici encore une chose assez particulière, nous sommes sur les voûtes de l'église. Et on voit tout l'envers des voûtes, puis on a une belle vue sur la campagne.
En redescendant sur la place, on remarque des statues de chats. Une légende raconte que des chats ont sauvé les villageois de la famine au Moyen-Âge, en dévorant les rongeurs qui s'en prenaient aux récoltes.
C'est le grand jeu de trouver le nombre de chats qui se trouvent dans le village. Donc je tairai le nombre, bien entendu.
Ah, il faut le découvrir.
Ouais, il faut venir les trouver, il faut affûter les yeux.
On laisse Thierry avec un groupe de visiteurs. Et l'on rencontre Elia et Théophane, deux jeunes pèlerins cyclistes.
Ben déjà, on est chrétiens pratiquants et c'était quelque chose qui faisait sens pour nous. En plus, c'est pour nos voyages de noces, pour confier notre mariage sur Saint-Jacques.
Et voilà, on s'était dit en deux semaines faire la moitié. Et ouais, c'est original, mais ça nous plaît.
Alors si vous venez de visiter, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah ben, c'est très joli. C'est plein d'histoires et c'est bien expliqué aussi.
Moi, j'aime beaucoup les cloîtres et j'aime bien aussi monter dans les tours pour avoir un beau panorama comme ici.
Nos jeunes mariés des chemins de Saint-Jacques ont prévu de faire étape dans les Landes à Aire-sur-l'Adour. C'est justement là que l'on retrouvera Philippe de Maria vendredi prochain.
Patrick Tégéro au frais des vieilles pierres de La Romieu dans le Gers. Prochaine étape vendredi prochain. Une pause et dans un instant, votre météo. RTL. Clignoter. Les auditeurs ont la parole, c'est dans quelques minutes votre émission. Le pass sanitaire, bien sûr, ça y est, on s'approche de sa mise en place. C'est pour lundi. Les files s'allongent devant les labos pour les tests. Quelle est votre stratégie si vous n'êtes pas vacciné? Vous nous appelez au 3210. Les salariés des Jambon Madrange et Brocéliande vont recevoir 200 euros s'ils ont un schéma vaccinal complet. Est-ce que cela introduit des discriminations entre salariés? Est-ce légal? Est-ce une bonne idée pour inciter à la vaccination? Le ministère du Travail saisit la Direction Générale du Travail pour étudier le dossier. On peut en parler ensemble. Et puis du sport, bien sûr. C'est fini pour Messi au Barça. Pas de prolongation de contrat après 20 saisons passées sous le maillot catalan. Quel avenir pour le sextuple Ballon d'Or? Les sports collectifs français à l'honneur aux Jeux Olympiques, on les regarde, on les suit avec Isabelle Langer, Nicolas Burnand, nos envoyés spéciaux. Basket, volley, hand, vous avez regardé les matchs, vous serez coincé devant les postes de télé ou à l'oreille, scotché à la radio. Demain, vous nous appelez pour commenter les exploits de nos champions. 32-10, le standard vous attend. La météo, Valérie Quintin, le soleil. Rien que dans le midi.
Oui, toujours, hein, ça continue. Alors pour l'instant, on a quand même de très belles éclaircies en région Rhône-Alpes, en Auvergne, et ça monte même jusqu'à la Franche-Comté. Mais c'est vrai que dans ce coin-là, ça ne va pas durer tout l'après-midi. Partout ailleurs, un ciel bien nuageux, bien chargé, quelques averses qui circulent sous forme de petites ondées. C'est pas trop terrible encore pour aujourd'hui. Notez qu'on a un petit vent assez sensible le long des côtes de la Manche et des températures qui sont toujours dans le même état. 21 degrés à Nantes, 22 à Orléans et à Metz, 23 degrés à Paris cet après-midi, 25 à Toulouse, 27 à Lyon, 29 degrés pour Montélimar et 30 degrés à Bastia.
Et pour le week-end, eh bien, on prévoit un parapluie.
Ah, mais je ne sais même pas si ça va suffire demain, parce que franchement, demain, c'est une journée très, très, très médiocre, notamment dans l'Est, dans le Massif central ou encore près des Pyrénées, où on va avoir de gros orages avec de la grêle, des bourrasques de vent. Enfin, franchement, une vraie partie de rigolade. Il va rester des petites éclaircies encore en Provence. Un grand et beau soleil pour la Corse et puis partout ailleurs, donc sur un très large quart nord-ouest. Un ciel toujours chargé avec des averses orageuses et des températures à l'identique, donc toujours un petit peu fraîches. Dimanche, on va dire que ce sera moins pire. Toutes les régions méditerranéennes vont retrouver un temps ensoleillé. On pourra avoir des éclaircies également dans le sud-ouest et pour les deux tiers nord, des nuages, des averses, des températures un peu fraîches. Mais rassurez-vous, en principe, la semaine prochaine sera moins terrible.
Merci beaucoup Valérie. Dans un instant, le rappel des titres de 13h. Il est 13h.
Bénédicte Tassard. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et avant de vous accueillir au 3210 3210, un petit rappel des titres de l'actualité. Une semaine de rodage et de tolérance pour l'extension du pass sanitaire. Annonce ce midi du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. La loi s'appliquera bien dès lundi 9 août. Elle vient d'être publiée au Journal officiel. 200 euros de primes sans impôts et sans charges pour les salariés de la coopérative bretonne Coperl. Salariés doublement vaccinés. Une initiative examinée en ce moment par le ministère du Travail. Les Jeux Olympiques et la France qui continue de briller en sport collectif. Cette fois, ce sont les handballeuses françaises qui viennent de se qualifier pour la finale en battant la Suède 29 à 27. Leurs adversaires, les Norvégiennes ou les Russes. Deuxième demi-finale à 14h. En tout cas, la 31e médaille est assurée. La compétition de trop, l'Olympiade de trop, la déception de Johan Diniz, le facteur abandonne aux 50 km marche. Lionel Messi a des propositions d'autres clubs. Précision du président du Barça après la rupture de contrat avec l'Argentin. Le FC Barcelone trop fragile financièrement pour conserver Messi. 82 pompiers français arrivés de Marseille en Grèce. La Grèce asphyxiée par au moins 90 incendies. On ne respire plus à Athènes. 16 personnes hospitalisées.
La table allongée sur RTL.
La table allongée, c'est une chronique que nous retrouvons bien sûr sur le site rtl.fr. Mais d'abord, on l'écoute en direct. La France en finale de hand au JO demain à 14h avec l'insubmersible Nicolas Karabatic qui se retrouve tout de suite sur la table d'Isabelle Langer avec son frère Lucas. La maman Lala nous raconte l'enfance de ces deux stars du handball français.
Chapitre 1, les petits costauds.
Lala, est-ce que vous vous souvenez du jour de la naissance de Nicolas et de Lucas?
Ah bah oui, Nicolas est né le 11 avril 1984 et Lucas le 19 avril 1988. Yann qui est né en Serbie, on était à l'époque en Serbie, et Lucas est né à Strasbourg.
Et c'était des petits garçons qui étaient comment?
Bah à la naissance, ils étaient déjà costauds, hein, tous les deux. Nicolas c'était 4,350 kg. Et Lucas 4,420 kg, 55 cm et Nicolas 53. C'était pratique, j'avais moins peur de les manipuler. Et les petits garçons, bah, ils étaient sympas, hein, bon, bien vivants déjà. Toujours envie de savoir tout, plein de questions, facile, hein, quand même facile.
Est-ce qu'ils suçaient le pouce ou ils avaient une tétine quand ils étaient bébés?
Ah, ils avaient des tétines, hein, tous les deux. Lucas, il avait une tétine et on est allé visiter là. Il y a une montagne de singes où il y a des petits singes qui se promènent de partout. Et il y en a un qui lui a piqué la tétine. Il a beaucoup pleuré, hein, mais on a réussi à rattraper le singe. On a bien désinfecté. Et il a eu sa tétine de nouveau.
Et quand ils étaient petits, tous les deux là, ils faisaient des bêtises?
Quand ils étaient tous les deux ensemble, oui, ils faisaient pas mal de bêtises. La balle, souvent, on prenait un nouveau appart, hop, ils me cassent des baies vitrées ou des choses comme ça. Ils jouaient avec la balle, à casser les robinets, des trucs. Oui, mais des petites bêtises normales, je dirais.
Chapitre 2, premier de la classe.
Et jusqu'à quel âge Nicolas est resté en Serbie?
Mon défunt mari, il était parti, lui, il avait 4 mois. Et comme moi, j'avais pas fini mes études, j'avais fait des études de médecine. Au début, on faisait aller-retour, on restait ici 2 mois là-bas, jusqu'à ses 3 ans. Et là, on s'est installé complètement, et après, Lucas est né ici, et depuis, on est là.
Vous vous souvenez du premier jour de l'école?
Nicolas, je me souviens quand on l'a mis à Strasbourg, à l'école maternelle, et ça a été terrible. Elle a tellement pleuré, ils voulaient se sauver de l'école, ils avaient été obligés de tout fermer à clé.
C'était des bons élèves?
Ah, c'était des meilleurs, toujours meilleurs dans la classe. Et pourtant, ils faisaient tout seul, puisque nous, on ne pouvait pas les aider. On parlait très mal français. D'ailleurs, ça n'a pas changé. Hein.
S'ils n'avaient pas été handballeurs, qu'est-ce qu'ils auraient aimé faire comme métier?
Nicolas, il voulait faire comme le pilote d'avion. Après, c'était peut-être médecin, mais des grandes études, ils voulaient faire tous les deux, parce qu'ils avaient tous les deux bac S avec des mentions. Nicolas bien et Lucas très bien.
Chapitre 3, le hand, passion familiale.
Ils ont commencé quel sport chacun?
Eh ben, ils ont commencé le hand tous les deux. Comme mon mari il était gardien de but, et j'étais tout le temps en match et tout, et forcément ils ont commencé le hand, mais ils étaient doués dans tous les sports.
Ils ont fait quoi d'autre comme sport?
Ben, Lucas a fait le tennis hein, jusqu'à très haut.
Et c'est un des grands espoirs français. Hein.
Oui, il est devenu boursier régional après, plus tard au niveau de France. Il était obligé de lâcher le hand, mais il était malheureux tout le temps. C'était son grand amour. D'ailleurs, à 18 ans, il a dit « J'arrête tout, je reprends le hand ».
Représentez quoi pour vous qu'il porte ce maillot bleu équipe de France?
Une fierté, parce que c'était un peu bah, « ça y est, on est intégré, on est là ».
Chapitre 4, la face cachée de Nico et Lucas.
C'est quoi leur plus grande qualité à tous les deux?
Ils sont très respectueux, très famille. Ils aident beaucoup notre famille en Serbie, en Croatie, comme c'est un peu difficile. Ils sont restés très humbles, ils n'ont jamais pris de grosses têtes, aucun de deux, et ils sont restés simples.
Ils ont des défauts?
Non. Sûrement, mais pour moi, non. Bah oui, ils ont des défauts comme tout le monde. Ils peuvent être têtus de temps en temps.
Épilogue.
Quel regard vous portez sur chacun d'eux aujourd'hui?
Ils sont adorables, voilà. C'est tout simple.
Lala, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos fils?
Au niveau du sport, Jeux Olympiques, pour moi, c'est... Et pour eux aussi, c'est... Tu représentes ton pays. J'ai envie de dire, comme à chaque fois, de jouer comme ils savent jouer, de ne pas se mettre la pression et de tout faire parce que c'est un truc magnifique. Donnez tout et régalez-vous. Voilà.
On se régale avec la table allongée. C'est une chronique à retrouver sur le site RTL.fr avec en prime les photos d'enfance de nos champions. C'est à feuilleter. Dans un instant, les auditeurs ont la parole. Le standard de RTL vous attend. Nous parlons ensemble, pourquoi pas, de la mise en place du pass sanitaire. Les contrôles dans les trains, à l'entrée des restaurants, vont-ils vous décourager? Quelle est votre stratégie si vous n'êtes pas vacciné? Vous nous appelez au 3210.
Bénédicte Tassard.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.